Voici une question dont la réponse nous aidera à acquérir de la sagesse. Y a-t-il des contradictions dans la Bible? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et sage, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On en apprend tellement au sujet de notre marche avec Dieu quand on examine la vie de l'apôtre Paul. J'ai bien hâte d'entendre ce que les Saintes Écritures vont nous enseigner à son sujet, suite aux questions que voici. Est-ce que la grâce de Dieu nous donne une liberté en ce qui concerne les rituels? Pouvons-nous accomplir le plan de Dieu sans toutefois atteindre les objectifs que nous avons fixés? De quelle doctrine est-ce que Paul parle quand il dit qu'il l'a persécuté à mort? Y a-t-il des contradictions dans la Bible? Est-ce qu'un chrétien peut exiger le respect de ses droits? Est-ce que le Seigneur donne les qualifications nécessaires à ceux qu'il envoie comme missionnaires? On a des questions bien intéressantes, n'est-ce pas? Et dans quelques instants, le pasteur Régent Joly va nous donner les réponses qu'il a trouvées dans la parole de Dieu, dans la Bible, afin qu'on puisse mieux connaître notre grand Dieu, afin aussi qu'on apprenne à mieux le servir pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, notre désir, c'est de mieux te connaître, mieux te servir. Parle-nous par ta parole aujourd'hui. Enseigne-nous, fortifie-nous, aide-nous à grandir en toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul est arrivé à Jérusalem. Des chrétiens poussés par l'Esprit l'avaient averti qu'il y serait arrêté. Et Paul a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu et il a poursuivi sa route vers Jérusalem. Dieu demandait aux saints d'avertir Paul, non pour qu'il retourne à Antioche, mais afin que ce soit volontairement qu'il passe par certaines tribulations afin de témoigner au roi et au gouverneur. Une fois à Jérusalem, Paul a fait un rapport à l'Église, et il a accepté d'accompagner des hommes qui ont fait un vœu au temple afin que tous voient qu'il ne s'oppose pas à la loi mosaïque. Paul, étant sous la grâce, était libre de faire un vœu ou non. Aucune loi ne l'obligeait à le faire, aucune loi ne le lui interdisait. Maintenant, nous retrouvons l'apôtre Paul au temple avec ses hommes. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes, chapitre 21, versets 26 à 29. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme Israélite, au secours !» Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. C'est généralement le cas avec les foules en colère. Elles réagissent à des suppositions et à de l'information erronée. Sous la grâce, nous avons une pleine liberté en ce qui concerne les rituels. Nous devons faire une distinction, chers amis, entre Paul et Trophime. Paul, un juif élevé dans la tradition de son peuple, est allé au temple lors de son séjour à Jérusalem. Trophime, un Éphésien non-juif, probablement converti par Paul, n'éprouvait aucun désir ou besoin d'aller au temple, ni de participer à un rituel mosaïque. Il n'a pas été élevé selon cette tradition. Sous la grâce, il aurait pu le faire s'il l'avait désiré. c'est ce que j'entends par la liberté que nous accorde la grâce. Bien entendu, Paul savait que son vœu ne contribuait en rien à son salut. Juifs et non-juifs sont tous deux sauvés uniquement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le vœu de Paul devait suivre certaines règles au sujet de la nourriture. Il devait éviter certains aliments et en consommer d'autres. De nombreuses personnes me recommandent des régimes qui devraient avoir des effets bénéfiques sur ma santé. Cependant, tous ces régimes vont profiter seulement à mon corps. Un régime alimentaire ne nous rapproche pas de Dieu. Sous la grâce, tu es libre de suivre un régime ou de ne pas en suivre. Ta décision aura des conséquences sur ton corps, mais pas sur ta relation avec le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Revenons à notre texte. Livre des Actes, chapitre 21, verset 30 à 32. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Le plan de Dieu s'accomplit toujours, chers amis. Notez la haine et la rancœur qu'ils éprouvent envers Paul. Ils le haïssent, car Paul enseigne que l'on n'a pas besoin de se soumettre aux lois mosaïques pour être sauvé. Paul peut observer une coutume de son peuple, s'il le désire. Il essaie de convertir les siens. Quoiqu'il n'ait pas atteint son objectif, il a accompli le plan de Dieu. Verset 33. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Le tribun ignorait qui était Paul, et il pensait qu'il était responsable d'un crime, donc il l'arrête. Verset 34 à 36. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait, en criant « Fais-le mourir !» Le capitaine n'a pu rien apprendre de la foule en colère. Donc, il fit conduire Paul à la forteresse. La foule désirait ardemment la mort de Paul. Verset 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec ?» L'officier commence à se rendre compte que Paul n'est pas un vulgaire criminel. Son prisonnier c'est le grec. Verset 38. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Il pensait que Paul était un chef de brigands qui était recherché par la loi. Verset 39. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Paul explique qui il est au tribun, et celui-ci lui permet de s'adresser à la foule. Verset 40. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Lorsque Paul s'adresse à la foule, il le fait en hébreu. La foule se calme et le laisse parler lorsqu'elle se rend compte que Paul sait l'hébreu. Maintenant, nous allons examiner le discours que Paul a prononcé devant la foule. Actes, chapitre 22, verset 1. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Paul est de la même race qu'eux, et il n'est pas sarcastique lorsqu'il les appelle hommes frères. En fait, il exprime son respect en appelant les personnes âgées pères. Verset 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit: la foule se calme encore davantage lorsque Paul s'exprime en hébreu. Puisqu'il est l'un des leurs, ils écoutent Paul, et celui-ci raconte son témoignage personnel. Verset 3. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul était persécuté par les chefs religieux des Juifs, et il leur rappelle qu'il avait déjà été l'un d'eux. Autrefois, il était un pharisien. Paul a de la compassion et de la sympathie pour eux, car il comprend ce qu'ils ressentent. Il leur raconte ses détails personnels, car il veut les gagner à la personne et à la cause du Seigneur Jésus. Paul venait de Tarse, qui était un important centre culturel et éducatif à son époque. Ce n'était ni Athènes, ni Corinthe qui étaient les centres, car les deux villes étaient déjà en déclin. Tarse était une ville en plein épanouissement et un centre éducatif. En plus d'avoir étudié le grec à Tarse, Paul avait étudié la religion hébraïque sous Gamaliel, un des grands docteurs de son époque. Donc, la foule était maintenant tout ouïe, vu le curriculum vitae de Paul. Verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Paul parle de la doctrine sans mentionner l'Église, les disciples de Christ ou même les chrétiens. Il emploie un terme que la foule comprend. La doctrine est celle du Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La doctrine se rapporte à la personne du Seigneur Jésus. En fait, Paul dit « Écoutez, je fus éduqué de la même manière que vous. Je sais comment vous vous sentez. J'ai agi comme vous le faites. » Poursuivons notre lecture, les versets 5 à 7. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Paul raconte les événements qui se sont produits sur la route de Damas lors de sa conversion. Verset 8. Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » La foule devait être silencieuse, que l'on entendait une mouche voler. Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?» Les contradictions apparentes de la Bible s'expliquent. J'aimerais que vous preniez note d'un détail. Rappelez-vous la conversion de Saul. Le texte disait, dans Actes chapitre 9, verset 7, « Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. » Ici, Paul mentionne, « Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Les critiques sautent sur cette contradiction apparente pour mettre en doute la crédibilité de la Bible. En fait, il n'y a pas de contradiction. Les hommes entendirent une voix. Ils ont entendu un son, mais ils n'ont pas compris ce que la voix disait, et ils ne savaient pas à qui appartenait la voix. Ils ont simplement entendu un son. Versets 10 à 20. Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arriva à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Paul n'a jamais oublié qu'il a participé à la lapidation d'Étienne et qu'il était en charge ce jour-là. L'expérience l'a marqué et l'a préparé pour le jour de sa conversion et pour le moment présent face à la persécution. Versets 21 et 22. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, « Hôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Paul mentionne le mot qu'il ne fallait pas prononcer, le mot « nation ». Et c'est pourtant là qu'il a exercé son ministère. Les Juifs le savaient. Mais aussitôt qu'il mentionne ce fait, ce fut comme s'il avait allumé une mèche. La foule se met en colère et refuse de l'écouter davantage. Versets 23 et 24. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Le tribun ne comprenait pas la colère de la foule. Il a fait entrer Paul dans la forteresse afin de le questionner par le fouet. Verset 25. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Un chrétien peut exiger le respect de ses droits. Personne n'écoute ou ne comprend Paul. Les Juifs ont cru que Paul était entré dans le temple avec Trophime, mais ce n'était pas le cas. Le tribun pensait qu'il était un chef de brigands égyptiens, mais ce n'était pas le cas. Paul est un Hébreu qui parle grec, et il est aussi citoyen romain. Il fait appel à ses droits afin d'éviter le fouet. Verset 27. Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, » répondit-il. Le tribun était un ancien esclave. Il avait obtenu la somme nécessaire pour son rachat. Il s'était enrôlé dans l'armée et il avait obtenu des promotions. Maintenant, il était tribun. Il est étonné d'avoir un prisonnier qui est citoyen romain de naissance. Versets 28 à 30. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, il fit descendre Paul et il le plaça au milieu d'eux. Le tribun s'est rendu compte que Paul était un homme exceptionnel et qu'il était préférable de ne pas le traiter comme un vulgaire criminel. Donc, il organise une rencontre avec le Sanhédrin et les principaux sacrificateurs. Rappelez-vous, il est dans la volonté de Dieu. Dieu est au contrôle de toute la situation. Le Seigneur qualifie ses missionnaires. Paul avait de nombreux atouts pour être un missionnaire dans l'Empire romain. Il parlait le grec, la langue commerciale dans une bonne partie de l'Empire. Il fut instruit selon la loi mosaïque, ce qui le qualifia pour l'interpréter à la lumière de la venue du Seigneur Jésus, ainsi que de sa mort et de sa résurrection. Il avait la connaissance de l'Ancien Testament et il pouvait interpréter la venue de Jésus suite à sa connaissance. De plus, il était citoyen romain, ce qui lui a ouvert les portes pour aller à Rome. Un homme équipé, un homme qualifié pour la mission que le Seigneur lui a confiée. Oui, chers amis, le Seigneur nous appelle tous à accomplir une tâche pour le royaume de Dieu. Mais avant, il nous qualifie. Prenez comme exemple votre humble serviteur et Jean Joly. Avant d'en arriver à ce microphone pour parler de la Bible, j'ai suivi un cours de formation d'animateur radiophonique à Montréal, et j'ai exercé ce métier pendant une douzaine d'années, ma profession dans le milieu radiophonique. Et après cela, je suis allé étudier la parole de Dieu dans une école biblique, après avoir reçu cet appel, comme l'apôtre Paul, un appel maintenant de me donner, de me consacrer à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, après ce grand nombre d'années accumulées avec le Seigneur Jésus-Christ, je suis devant vous, devant ce microphone, pour vous expliquer, vous partager le plan merveilleux que Dieu a pour notre vie, pour la tienne, pour la mienne. Le Seigneur dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit donné pour l'utilité commune. » Et là, il va énumérer quelques dons que l'Esprit accorde à ceux et celles qui le reçoivent dans leur vie, qui invitent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur existence. Et il compare toute cette belle harmonie des chrétiens à un corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si nous poursuivons cette idée, nous lisons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais cette fois, le verset 27. « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Voyez-vous, en devenant chrétien, en recevant le Christ comme sauveur personnel, vous devenez maintenant utile. Vous devenez maintenant un membre à part du corps de Christ et vous pouvez maintenant remplir des fonctions bien précises. Oui, chers amis, nous sommes tous des pièces différentes les unes les autres, mais qui s'emboîtent les unes dans les autres pour former un corps, pour être au service de la tête du chef qu'est le Christ. As-tu trouvé ta place au sein du corps de Christ, de son Église? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Actes chapitre 23, versets 1 à 35.
Merci beaucoup, Régent. N'est-ce pas merveilleux de voir toute la liberté qu'on a quand on vit sous la grâce de Dieu? N'est-ce pas réconfortant de savoir que le plan de Dieu s'accomplit toujours, sans exception? Je suis vraiment touchée de voir à quel point l'apôtre Paul avait de la compassion et de la sympathie pour ses persécuteurs, qu'il comprenait ce qu'il ressentait, qu'il n'avait qu'un désir, celui de les gagner à la personne et à la cause de Jésus-Christ. Quel bel exemple pour nous, les croyants! Mais quand Régent a mentionné que Paul n'avait jamais oublié qu'il avait participé à la lapidation d'Étienne et qu'il en parlait même devant la foule, disant qu'il avait joint son approbation à celle des autres et avait gardé les vêtements de ceux qui l'avaient fait mourir. Ça me rappelle quelque chose de semblable que j'ai vécu après ma conversion. Et c'est justement une chose que je fais quand je donne mon témoignage. Je me dis que si c'était bon pour l'apôtre Paul, ça doit être bon pour moi. Si c'était bon pour les personnes qui entendaient le témoignage de Paul, ça doit être bon pour ceux qui entendent le mien. Tout comme Paul avait participé à la lapidation d'Étienne, j'ai moi-même participé à la lapidation spirituelle de mon guitariste, qui s'était converti environ un an avant moi. Quelques jours après sa conversion, il a tenté de me parler du Seigneur Jésus, de sa nouvelle relation avec lui, depuis qu'il l'avait reçu comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et pour le remercier, eh bien, je l'ai congédié. Et en plus, je me suis mise à dire à toutes nos connaissances mutuelles qu'il était tombé sur la tête, qu'il était devenu un « Jesus freak », un terme qu'on utilisait dans les années 70, signifiant un fanatique de Jésus, mais avec un ton de mépris. Donc, je faisais du mal à Robert, alors que Robert priait pour moi, tout comme Étienne a prié pour ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Et tout comme l'apôtre Paul, cette expérience m'a marqué et m'a même préparé pour le jour de ma conversion. Je me rappelle que dès que j'ai reçu le salut, c'est-à-dire le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, une des premières choses que j'ai faites a été d'appeler ce guitariste pour lui demander pardon. Et j'ai appris qu'il avait prié pour moi depuis le jour où je l'avais congédié. Mes frères, mes sœurs, quand les gens nous rejettent parce qu'on leur annonce le plan de Dieu pour qu'ils aient la vie éternelle, s'ils nous rejettent, je crois qu'il est important qu'on continue à prier pour eux et qu'on continue aussi à leur témoigner de l'amour si on a l'occasion de le faire. Dieu a un plan pour eux. Dieu les aime inconditionnellement. Et dans l'Évangile de Matthieu, au 5e chapitre, au verset 44, Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Voilà un commandement du Seigneur que je m'efforce d'appliquer dans ma vie. Et je dois vous dire qu'il est possible de le faire avec joie, sachant qu'on participe aux souffrances de Jésus-Christ. Après tout, la Bible ne nous dit-elle pas que le serviteur n'est pas plus grand que son maître? Dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean, au 20e verset, Jésus nous dit ça, et il ajoute que s'ils ont persécuté le Maître, ils nous persécuteront aussi, comme je l'ai fait avec mon guitariste d'ailleurs. Oh, mes frères, mes sœurs, aimons notre prochain comme nous-mêmes, comme Jésus nous le commande, et allons ensemble vers tous ceux que Dieu place sur notre chemin pour leur dire que Dieu les aime, pour leur donner l'opportunité de recevoir le don gratuit de la vie éternelle.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.